Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour et bienvenue au fil des pages, votre rendez-vous littéraire sur Canal Academy, avec des livres que nous sélectionnons et dont vous nous parlons afin naturellement que vous les lisiez parce qu'ils valent la peine. C'est le principe justement de cet au fil des pages qui va nous emmener sur un terrain bien connu puisque vous l'avez expérimenté au cours d'une actualité médiatique extrêmement dense. Il s'agit de l'affaire DSK. Alors évidemment, on ne va pas surenchérir sur l'affaire DSK, ce n'est pas le but. Nous allons entrer dans l'intimité, dans l'analyse de cette affaire avec un philosophe que vous connaissez bien également sur notre antenne puisqu'il s'agit de Damien Le Guay. Bonjour Damien Le Guay.
Bonjour.
De quoi DSK est-il le nom? Trois lettres que tout le monde connaît. De quoi DSK est-il le nom? C'est aux éditions de l'œuvre. Vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à HEC. Vous avez écrit plusieurs ouvrages que l'on ne va pas tous citer ici mais qui pose une réflexion sur les médias. L'affaire a commencé le 14 mai. Alors vous, tout de suite, vous êtes dit, ça y est, faut que j'écrive dessus, faut que j'analyse.
C'est-à-dire qu'il m'a semblé effectivement que tout de suite, la tournure des événements, l'importance accordée par les médias, laissait à supposer que quelque chose d'inédit allait sans doute se passer. Et de fait, quelque chose d'inédit s'est passé, qui est d'abord, comme vous le dites, d'un point de vue strictement médiatique. C'est-à-dire que pendant des semaines, nous avons vécu sous l'avalanche des révélations, des épisodes, des successions d'événements de cette affaire DSK, au point que, dans mon livre, je dis bien, me semble-t-il, qu'il y a comme un coup de force, comme un putsch médiatique qui a pris le pouvoir, qui a imposé son calendrier sur tout le reste n'ayant plus d'importance, au seul profit de cette affaire qui est soit un fait divers, soit quelque chose de plus important, mais qui est à la base quand même un fait divers.
Mais le putsch, c'est le moment où vous avez vu DSK avec le menotte à la télé?
Non, le putsch, c'est comment est-ce que les médias s'en sont emparés, ont considéré qu'il y avait une sidération, et moi, face à cet événement-là, qui a balayé tout le reste, qui a pris toute la place, qui a occupé tous les esprits, dont personne ne pouvait échapper, il m'a semblé qu'effectivement, il y avait quelque chose de sidérant dans cette sidération médiatique et que cette sidération médiatique méritait que nous puissions y réfléchir et voir de quelle manière poser un tout petit peu d'intelligence, de réflexion et de distance face à cet événement.
Est-ce que vous avez été sidéré vous-même?
J'ai été sidéré par la sidération. C'est-à-dire que j'ai considéré effectivement que tout de suite, cet événement aurait pu être rangé dans un fait divers banal ou relativement petit. Mais tout de suite, il m'a semblé que ces hommes des médias, ces hommes politiques, qui parlaient tous d'une manière ou d'une autre de quelqu'un qu'ils connaissaient d'une part, et d'autre part, on avait l'impression, si vous voulez, comme un enterrement, que chacun parlait non pas du mort, mais de leur propre mort anticipée ou de ce qui aurait pu à eux leur arriver face à un événement comme celui-là. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu obscène que de se focaliser là-dessus, que de ne parler que de ça, que de balayer tout le reste et de considérer que les Français étaient intéressés, ce qu'ils ont été aussi par ailleurs.
À Canal Academy, nous sommes un peu un média, non pas forcément de diversion justement, mais d'approfondissement. Donc on ne craint pas d'aller au cœur des choses par-delà les écrans de fumée médiatiques. Il y a quand même une sidération, c'est qu'un candidat à la candidature présidentielle qui se retrouve les menottes aux mains aux États-Unis, ce n'est quand même pas arrivé souvent dans l'histoire, Damien Le Guay. Ça, vous pouvez reconnaître aux médias le fait qu'ils ont quand même vu dans cet événement quelque chose de particulier, d'insolite, de non reproductible peut-être.
Quelque chose de particulier, d'insolite, mais premièrement, cet événement DSK a été traité...
Trop pour vous, beaucoup trop, anormal.
A été traité deux fois plus que le tsunami japonais, 25 000 morts. A été traité quatre fois plus, je crois, que l'élection d'Obama. Donc il y a, et nous sommes là à Canal Academy justement pour prendre un peu de distance, en 1972, Pierre Nora avait mis en évidence ce qu'il appelait un événement monstre, c'est-à-dire quelque chose qui laisse à supposer que les médias eux-mêmes font le calendrier et imposent quelque chose parce que nous sommes de plus en plus dépendants des médias et donc il y a une forme de monstruosité de l'événement imposée par les médias de sorte que maintenant nous, c'est-à-dire le public, le reste, les gens en face, nous n'avons plus le choix du sujet.
On est pieds et poings liés. Si l'un a les menottes, nous, on voilà. est pieds et poings liés.
C'est-à-dire que nous subissons un calendrier, un sujet, une priorité, un ordre de compréhension, des témoins qui sont imposés par les médias. Et ce que les Français ont découvert, c'est quelque chose d'un peu inextricable entre les amis, les connaissances, etc., de Dominique Strauss-Kahn, qui, bien comme politique pour la plupart, prenait la défense de Dominique Strauss-Kahn, n'imaginait pas que la chose puisse lui arriver. Et donc, il y avait, me semble-t-il, tout de suite, pour les Français, quelque chose qui laissait à supposer que les hommes politiques sortaient de leur fonction de neutralité, de respect de la justice en cours, pour prendre position tout de suite et considérer que ce n'était pas possible, qu'il fallait respecter la présomption d'innocence, certes, mais il fallait aussi respecter, me semble-t-il, la présomption de la culpabilité possible de Dominique Strauss-Kahn.
Mais Damien Le Guay, De quoi DSK est-il le nom, je le rappelle, aux éditions de l'œuvre. Damien Le Guay, les médias ont joué aussi le rôle de révélateur, puisqu'ils ont mis le projecteur sur le fonctionnement peut-être d'un système, d'une oligarchie, appelons-le comme on veut. Donc, d'une certaine façon, ils ont brisé les murs étanches qui séparent peut-être les milieux dans la société.
Alors là où vous avez raison, c'est qu'il y a effectivement un calendrier imposé et que effectivement, à l'inverse, l'intérêt de l'opinion publique a été tout de suite forte. Intérêt extrêmement fort, on le voit dans les tirages des journaux, dans les audiences, dans le suivi, etc., etc. Donc, il y a effectivement quelque chose qui a, me semble-t-il, de façon peut-être irréversible, déplacé un tout petit peu les frontières. Et donc, je considère, et ce livre est là pour en témoigner, que quelque chose a bougé dans le royaume de France qui laisse à supposer que les hommes politiques, les médias, prennent conscience d'un certain nombre d'obscénité ou de promiscuité ou de trop grande complaisance des uns vis-à-vis des autres, de sorte que quelque chose doit changer pour que les Français puissent, d'une manière ou d'une autre, se réconcilier avec les médias d'une part et les hommes politiques d'autre part. Et nous savons tous que les Français sont loin de la réconciliation avec les médias et les hommes politiques et qu'au contraire, ils détestent, ils n'aiment pas, ils ont peu de considération et pour les médias et pour les hommes politiques. Ceci dit, un autre point mérite d'être signalé, me semble-t-il, c'est que la gauche, qui a, le dit par exemple Jean-Pierre Le Goff, le monopole de la morale depuis au moins un siècle, si ce n'est plus, qui se positionne toujours aux avant-postes des combats féministes pour la libération de la femme, etc., mettre en tête de la gauche, porter au pouvoir, au nom de la gauche, un homme politique comme Dominique Strauss-Kahn, est-ce qu'il n'y a pas là un problème que la gauche elle-même, dans une forme d'examen de conscience, se devrait de faire pour reconsidérer ce champion qu'elle s'était elle-même choisi, mettant de côté tout cela et même peut-être aussi ses principes.
Remarquez, si vous raisonnez ainsi, on pourrait aussi dire tel ou tel homme qui se dit de droite a-t-il un comportement correspondant aux valeurs véhiculées par la droite, et on pourrait aussi ouvrir comme cela quantité d'histoires qui ne sont pas forcément majoratives pour le milieu politique.
Je renvoie simplement à une idée qui remonte à Jean Jaurès, qui est que, effectivement, la gauche n'est pas simplement un camp politique, qu'elle n'est pas simplement des options théoriques, mais qu'elle est surtout et avant tout une morale. Et la morale suppose que l'on se comporte d'une certaine façon.
Le camp du bien.
Le camp du bien, mais une morale. Une morale, ça veut dire que aussi, il importe de respecter les femmes, de respecter son comportement, de faire attention, de se gêner, voilà, et de considérer qu'il importe d'être comme cela, c'est-à-dire poli, respectueux, attentif, dans sa vie privée comme dans sa vie publique, et que les deux, finalement, n'en font qu'un parce que ce monopole de la morale à gauche a des implications dans le comportement des hommes politiques.
Alors, Damien Le Guay, simplement sur les médias, je reviens à la réalité des médias, parce que vous dites justement à l'instant, vie privée, vie publique, cohérence, et vous attaquez quand même assez fortement les médias, en tout cas au début de votre ouvrage, puisque vous dites que c'est un déluge, un fait divers qui a monopolisé, ainsi que vous l'avez dit d'ailleurs au début de cet entretien, le calendrier est monopolisé par les médias, on a le droit à tous les témoins qui défilent. Est-ce que vous pensez que ces médias, quand ils en parlent, ils font avancer les choses dans le bon sens, quand même parce qu'il y a une prise de conscience? Ou est-ce que vous estimez qu'ils auraient dû, sous prétexte de ne pas verser dans le voyeurisme, se taire ou en faire 10 fois moins? Et quoi? Alors, dire quoi dans ce cas?
Il y a 2 choses qu'il faut considérer. 1, moi, je cherche juste à comprendre ce qui s'est passé. 2, à élever le débat. 3, à poser un certain nombre de questions face à cela. Et, pour ce qui concerne les médias, à considérer effectivement que les petits problèmes relatifs à des gens que l'on connaît, que l'on fréquente, que l'on voit, chez qui on est reçu à titre privé, que l'on connaît dans sa vie professionnelle depuis longtemps, ces petits problèmes-là, aussi importants ou significatifs soient-ils, sont-ils de nature à mettre de côté, à considérer qu'en Libye, il ne se passe plus rien pendant quelques semaines, que le chômage n'existe plus, que les Français qui gagnent en moyenne 1500 euros par mois, que ces Français-là sont rayés de la carte, et que le seul problème d'un riche et d'un puissant qui va dépenser 2 millions d'euros pour sa défense, qui vit dans le luxe, qui a une femme richissime et qui, effectivement, se trouve dans un fait divers à New York, que ce problème-là, parce qu'on le connaît, parce qu'il est de la bande, parce qu'il est un ami parmi les amis, que ce problème-là doit, effectivement, monopoliser toute l'attention au détriment du reste. Donc, vous avez raison. Il y a à la fois un intérêt de la part des médias qui est devenu exclusif, et c'est ça le reproche que l'on peut faire, d'une part. Et deuxièmement, il y a eu de la part de l'opinion publique le désir à la fois légitime et malsain, à la fois intéressé et voyeuriste, d'aller voir ce qui s'y passait, de
parce
suivre.
C'est ce que l'on voit tous les jours à la télé dans les séries.
Parce que, effectivement, le séquençage de l'affaire DSK ressemble, et j'ai écrit effectivement il y a quelques années un livre sur la télé-réalité, ressemble à quelque chose qui est de l'ordre de la télé-réalité, et ça a passionné, de ce point de vue-là, les médias et les Français, et ce d'autant plus que, effectivement, ces épisodes successifs de jour en jour, de semaine en semaine, ces retournements, ces compréhensions nouvelles, etc., etc., laissent à supposer que, et c'est là le reproche que l'on peut faire aux médias, que nous avions là une affaire tellement extraordinaire pour les médias, qui rentrait tellement dans le format des médias, avec ses rebondissements, ses images, son côté saisissant, etc., etc., que, finalement, les médias ne voient ou ne finissent par voir que ce qui est conforme à la vision ou la compréhension qu'ils ont des choses. Donc c'était du pain béni pour les médias, et ce pain béni pour les médias laisse à supposer que, et c'est là où il faut faire un examen de conscience, me semble-t-il, des médias vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est pourquoi faut-il que les médias ne voient que ceux qui rentrent dans un format de caméra, de radio, de télévision, et que le reste, qui n'est peut-être pas vu, mais qui existe, la souffrance, la difficulté.
Il y a une forme de paresse.
Il y a une forme de manière de voir le monde qui se réduit finalement à l'objectif. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'au travers des lunettes des médias, et que les lunettes des médias imposent un format à la réalité, de sorte que si quelque chose n'est pas conforme à cela, qu'il faut travailler, qu'il faut les chercher, qu'il faut
les... Ça passe à côté.
Ça passe à côté, voilà. Et c'est là le risque des médias, c'est que finalement, les médias ont imposé un format, une manière de voir les choses. Il y a une forme d'arraisonnement par les médias du monde qui fait que tout ce qui n'est pas médiatique ou tout ce qui n'est pas conforme à ce que les médias peuvent voir leur échappe. Et ce qui leur échappe, en l'occurrence, ça peut être aussi, 1, la faim dans le monde, 2, la misère des individus, 3, les situations de solitude et d'isolement des uns des autres. Parce que tout ça, c'est pas visible, ça ne se voit pas, et pourtant, ça existe, et pourtant, ça devrait sans doute être amené. Donc je crois qu'il y a cette tyrannie de l'instant, de l'instantanéité, de l'image qui fait choc, du rebondissement, etc., etc., qui alimente ces moulins à paroles.
C'est une histoire à raconter, comme l'affaire Bettencourt, par exemple.
Voilà.
Ce sont des histoires.
Voilà. Est-ce que tout ça intéresse les Français? Oui, pour partie, jusqu'à un certain point. Est-ce que tout ça ne contribue pas, et c'est là le risque qu'il faut bien mesurer, quand on voit comment c'est traité et qui défend qui, à alimenter le populisme des uns et des autres, le tous pourri qui peut rejaillir de cela, le sentiment, il y a un sondage encore récemment, du caractère corrompu de la classe politique française. 80% des Français considèrent que la classe politique française est plutôt corrompue. Voilà. Donc tout ça, avec toutes les affaires qui ressortent, etc., alimente certainement l'idée, juste ou pas, je ne sais pas, dangereuse, j'en suis certain, que les hommes politiques, censés nous trouver des solutions pour faire face aux défis ô combien abyssaux qui sont en face de nous, ces hommes politiques-là s'intéressent plus à eux-mêmes, se parlent les uns les autres, qu'il y a une forme de vase clos des élites entre elles, que tous ces gens-là forment un petit monde qui ne s'intéresse finalement pas tellement aux Français et beaucoup plus à eux-mêmes. Ces différents sentiments-là, justes ou pas justes, conduisent les Français à rejeter leur classe politique et à considérer que peut-être, eh bien, on pourrait trouver...
Ils ne se reconnaissent pas et les médias sont les miroirs des puissants, hein, tout simplement.
Voilà.
Damien Le Guay...
Plutôt qu'un contre-pouvoir, ce qui est normalement la tâche première des médias.
Néanmoins, si les médias n'avaient pas parlé de DSK, ils seraient peut-être candidats aujourd'hui.
D'une part, c'est difficile de ne pas en parler. D'une part, la question c'est comment on en a parlé, mais de ne pas en parler, ça aurait été difficile, d'une part. Deuxièmement, ce que les médias comprennent et ne comprennent pas, c'est que maintenant, il y a le off d'autrefois, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait des complicités entre les hommes politiques et journalistes politiques, de sorte que, hors micro, ils pouvaient se dire des choses qui étaient considérées comme le off, qu'ils mettaient sur un petit carnet et qu'ils diraient plus tard. Ce off-là a été remplacé, me semble-t-il, par autre chose qui est Internet. Et Internet, c'est à la fois une pompe aspirante de tous les ragots et autres déchets de nos démocraties soucieuses de se surveiller les uns les autres. Et en même temps, il y a là une mesure de l'intérêt et, en temps réel, de la passion que peuvent avoir les Français pour telle ou telle affaire ou telle chose. Donc, et quelque chose aussi s'est développé qui, effectivement, montrait que les Français se sont effectivement absolument intéressés à cela.
De quoi DSK est-il le nom ? Si vous deviez dire, Damien Le Guay, précisément, parce que vous ne dites pas forcément dans votre ouvrage, résumez cette histoire à un nom. De quoi DSK est-il le nom ? Quel vice ou quelle vertu ? Quel mot trouveriez-vous ?
Je dirais que la chose essentielle, il est le nom, un, d'une histoire personnelle qui est celle des libérations sexuelles successives, qui finit par conduire un individu riche et puissant qui peut tout avoir. Donc on tombe de la liberté sexuelle à la dépendance et de la dépendance au misérabilisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet homme a effectivement un avenir devant lui, ou du moins il avait un avenir devant lui. Encore fallait-il qu'il puisse se tenir. Nous sommes là dans l'hubris grec, dans la démesure, dans les passions qui sont plus fortes que la raison. Et il s'est d'une certaine façon lui-même empêché. Il a été lui-même son propre ennemi, mais il ne s'est pas considéré lui-même comme son propre ennemi parce que il y avait, et c'est le troisième point, un sentiment d'impunité, de « c'est pas grave », de « on verra bien », ça n'a aucune importance, les Français ne regardent pas cela. Et il me semble que là, effectivement, de quoi DSK est-il le nom ? Il est avant tout le nom de tout cela, des complicités médiatiques.
Donc il est le nom d'un ethos, il est le nom d'une réalité qui est beaucoup plus forte, qui le dépasse.
Exactement. C'est là où, effectivement, je ne dis pas Dominique Strauss-Kahn, je dis bien DSK, je mets bien en évidence un symbole, quelqu'un qui est devenu le symbole de quelque chose, à tort ou à raison, qui dépasse son cas personnel et qui fait en sorte que, effectivement, il y aura, j'en suis absolument persuadé, un avant et après DSK. Encore faut-il que les médias d'une part, les hommes politiques d'autre part, fassent cet examen de conscience, fassent cette nuit du 4 août dont je parle à la fin de mon livre dans les trois chantiers, de manière à purger eux-mêmes, à autodaffer eux-mêmes les privilèges, les avantages, les connivences, les liens implicites, etc., qui peuvent exister entre eux, de manière à devenir plus propre, plus probre, avec un plus grand sens de l'éthique et de l'équité, pour faire face à la fois aux responsabilités qui leur sont confiées et surtout aux défis gigantesques qui arrivent vis-à-vis de la France et qui laissera supposer que nous allons, dans les années à venir, tomber dans une rigueur que celle que nous connaissons aujourd'hui n'en donne qu'une petite idée.
Merci beaucoup Damien Le Guay. De quoi DSK est-il le nom ? C'est aux éditions de l'œuvre. Vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à HEC. Et c'est à lire, bien sûr, et on voulait justement vous donner la parole sur Canal Académie pour que vous puissiez analyser en profondeur ce phénomène DSK et qui dépasse très largement, vous avez dit vous-même le nom, le fait divers, qui est beaucoup plus que cela. On pourrait employer le terme de phénomène. Merci, Damien Le Guay.
Merci de m'avoir reçu.